Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission du Cercle de lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous analysons un livre qui s'appelle Bilkis de Safia Azzedine. Alors, Confluence est une association qui a été créée en 1990 par trois amis, Maurice Petit, Bernard Marlier et Guy Roumagnac. Et Confluence organise des manifestations littéraires et des manifestations artistiques en tout lieu et pour tous les publics. Alors le point fort évidemment de Confluence, vous le savez, c'est Lettres d'automne qui intervient chaque année pendant 15 jours les deux dernières semaines de novembre. Et cette année, l'invité d'honneur est Laurent Mauvignier qui va inviter lui-même un certain nombre d'artistes de son qui l'intéresse sur le thème « Devenir au pluriel ». Voilà. Alors, ce cercle de lecteurs de Confluence a analysé Bilkis l'autre jour. On était un peu moins nombreux que d'habitude, mais ça nous amène à vous dire que vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas besoin d'être membre de Confluence pour venir. Et l'opinion unanime a été quand même extrêmement favorable à ce livre, même s'il y a eu quelquefois des petites réticences. Alors, je vais rapidement vous dire quel est le thème. Bilkis est une jeune femme, elle doit avoir 25 ans, enfin ça n'est pas dit, mais enfin c'est à peu près ce qu'on suppose. Elle est veuve, elle n'a pas d'enfant, elle vit dans un pays d'islam qui n'est pas nommé. Tout nous indique que c'est sans doute l'Afghanistan parce que il y a une présence des Américains, d'occupation américaine, parce que il y est question d'opium. Parce qu'il y est question surtout du poids de la charia qui est venu s'imposer sur une société qui auparavant était plus libérale. Alors, qu'arrive-t-il à Bilkis? Eh bien, Bilkis, un matin, a été réveillée par une de ses voisines, femme du muezzin, qui ne réussissait pas à réveiller son mari, qui, comble de l'horreur, une fois de plus, s'était très très sévèrement enivré avec de l'arak et qui était littéralement ivre-mort. Or, il fallait lancer la prière du matin. Et sans réfléchir, Bilkis va aller lancer cette prière du matin, ce qui déjà est quasiment un sacrilège ou un blasphème. Mais elle va pas se contenter de ça. Elle va aussi commenter son appel à la prière en disant comment elle conçoit les choses, en disant à ceux qui travaillent que, après tout, ils travaillent pour la communauté et que c'est une forme de prière aussi et que s'ils ne peuvent pas se réveiller, ben c'est pas grave. Donc, à la suite de ce beau sermon, parce que c'est presque un sermon qu'elle fait au haut du minaret, évidemment, elle est arrêtée. Et elle va être jugée, et c'est le sujet du livre, et la condamnation qu'elle risque, c'est la lapidation. Voilà. Donc, tout le livre va nous permettre d'assister à certaines séances de ce procès, avec un juge qu'on va sentir de moins en moins motivé à demander la peine suprême, parce que elle l'ébranle dans ses convictions. On va assister aussi à un certain nombre de rendez-vous avec une journaliste américaine qui s'est précipitée pour le scoop, en pensant uniquement à sa carrière, enfin, etc., et qui elle aussi va être entamée, si j'ose dire, par l'attitude de Bilkis. Voilà pour ce qui est du pitch. Mais peut-être que ça, il serait intéressant qu'on sache qui est Safia Azzedine.
Voilà. Alors, Safia Azzedine est née à Agadir, au Maroc, en 1979. Elle a un père marocain et une mère franco-marocaine. Elle a donc la double nationalité et elle vient en France à l'âge de 9 ans, dans la commune de Ferney-Voltaire, près de la frontière suisse, où elle y fait ses études. Ensuite, elle se tourne vers l'écriture en cumulant des activités de journaliste, de scénariste et de romancière. Et elle écrit plusieurs romans, dont le premier en 2005, « Confidence à Allah », qui est un succès immédiat. Suivront en 2009 « Mon père est une femme de ménage » qu'elle adapte et réalise dans un film du même titre avec François Cluzet. Ensuite, en 2010, « La Mecque Phuket ». En 2011, « Héros anonymes ». En 2013, « Combien veux-tu m'épouser ?» Et en 2015, « Bilkis », qui obtiendra le prix littéraire des lycéens apprentis de Bourgogne à Dijon. Donc, elle écrit en français, Elle a été actrice dans le film L'Italien de Olivier
Barou. Olivier Barou.
Et elle a été pendant 2 ou 3 ans la petite amie, ça c'est pour la petite histoire, de Jamel Debbouze.
C'est notre rubrique gala.
Son livre Confidential là a été adapté en bande dessinée par Eddie Simon et Marie Avril. Et les dessins sont de Marie Avril. Et on peut dire qu'elle est très éclectique parce qu'elle travaille à Genève comme assistante diamantaire.
Alors quand on regarde les titres de ces livres, on se rend compte que quand même son intérêt, c'est l'effet de société et puis tout ce qui tourne autour du religieux. Et justement, Françoise, tu étais très intéressée par cet aspect.
Oui, par le procès qui est fait de l'intégrisme à travers justement le jugement de Bilkis. C'est elle qui fait le procès de l'intégrisme, ce qu'elle appelle une imposture du divin, qui, selon elle, dénature la religion musulmane. Alors, c'est le procès, donc, d'une religion pervertie qui abomine les femmes et qui leur interdit tout ce qui peut tenter les hommes. La liste des interdictions est innombrable. Alors, moi, j'ai relevé, entre autres, l'interdiction du maquillage, du port du soutien-gorge, l'interdiction de sortir de chez soi sans autorisation d'un homme, l'interdiction de lever la voix, et c'est justement ce que Bilkis va faire, voilà, en faisant l'appel à la prière. C'est aussi le procès d'une religion pervertie qui proscrit les instruments de culture, parce que il détourne de Dieu le cœur du croyant. Interdiction de la lecture, de la musique, de l'instruction. Les bibliothèques et les écoles sont incendiées. Et parce qu'elle n'a pas respecté tous ces interdits, auxquels on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, Bilkis représente pour ses accusateurs le mal absolu.
Et d'ailleurs, quand ils ont fait une perquisition chez elle, ils ont accumulé les preuves. On lui a supprimé les peluches.
Oui.
Le maquillage, tu le disais, les soutiens-gorge, enfin un bustier en dentelle, on lui a trouvé un bustier en dentelle. Oui. Et ce que j'ai trouvé le plus croquignolé quand même dans les interdictions, c'est le fait que les femmes n'ont pas le droit d'aller au marché acheter des légumes de forme phallique. Le jardinier, enfin, ou le maraîcher qui les leur vend, doit découper les concombres et les courgettes, ce qui l'amène à une prise de bec assez juteuse, si j'ose dire. Avec un de ses accusateurs à qui elle dit vraiment quelle arrogance de vous imaginer que vous êtes muni d'une aubergine ou d'un concombre. Donc on s'amuse quand même dans ce livre.
Oui. Et si Bilkis dénonce avec véhémence cet intégrisme, c'est qu'elle est très croyante et qu'elle souhaite pratiquer un islam originelle et authentique, parce que elle va réfuter la légitimité du procès, par exemple. Je lis une citation. « Il existe dans ma religion un principe d'égalité absolue face à Allah. Il n'y a que lui à qui je dois rendre des comptes, et il n'y a que lui qui soit apte à me juger. » Et à la fin, qu'on ne dévoilera pas, elle proclame dans une dernière confession de profession de foi, « Mon Coran n'ordonne rien. Aucune loi ne peut s'en dégager, parce qu'il y a autant de lectures qu'il y a de musulmans. Mon prophète adoré nous dit qu'il faut lire le Coran comme s'il nous était révélé personnellement. » Donc, finalement, ce qui prime dans cette religion, c'est la relation intime entre le croyant et Dieu, et c'est l'exercice de l'esprit critique dont elle a été, et les femmes de son pays avec elle, totalement privées.
Je crois qu'au-delà de la religion, on peut dire que ce livre, il a été écrit plus pour redonner une place aux femmes cette place qui a été complètement, sous prétexte de religion, prise par les hommes. Et ça va au-delà même des pays qui pratiquent l'islam, puisqu'on voit que la journaliste américaine qui vient, elle est aussi embringuée dans ces histoires avec les hommes aux États-Unis. Enfin, c'est pas simple.
Elle n'est pas aussi libre ou libérée qu'elle le croit. Hein. Mm-hmm. Mais parce que justement, l'un des intérêts de ce livre, qui bien sûr traite surtout de l'intégrisme islamique, en fait, qui le met en œuvre, c'est que il y a une réflexion plus souterraine et plus intéressante pour tout le monde. Ça amène à réfléchir un petit peu à toutes les religions, à la façon dont les religions sont propagées, dont ceux qui en sont les chefs entre guillemets, enfin. Ont une théologie sur laquelle on peut s'appuyer, et c'est une espèce d'incitation aussi à savoir juger justement par soi-même de ce qui est juste, comme il est dit dans l'Évangile. Mais une des choses qui est vraiment très interdite par ces talibans, parce qu'il faut bien les appeler par leur nom, c'est la musique. Alors pour venger Bilkis, on vous propose d'en écouter un morceau. Il s'agit d'un extrait d'un disque de Idir, qui est kabyle et qui s'appelle Amagiz, mais je suis incapable d'être sûr de ma prononciation.
I guess me the it's must pass ah I was in with my chin yet I was a kid at the Christmas فاصل ما شحال ذاك الجي مغنينا يات وجدا يولي يسمد يبضو حما أنو فزيه غير يبذني تمانا
Vous êtes bien sur CFM Radio et aujourd'hui vous écoutez le cercle de lecture de Confluence qui analyse Bilkis, un roman de Safia Azedine, avec moi pour vous en parler.
Françoise,
Anna
et Jeannette. Nous disions que ce livre était extrêmement attachant. Et une des raisons aussi qui le rend attachant, c'est la façon dont il analyse avec finesse et sans aucun manichéisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup plu à tous les lecteurs du Cercle de Confluence, les personnages. Anna, vous nous parlez un peu de Bilkis.
Alors, Bilkis est une jeune fille très intelligente. Elle a été mariée très tôt par ses parents. Elle avait 13 ans à un homme qui aurait pu être son père ou son grand-père, et c'est une jeune fille qui est allée à l'école, et donc elle a eu son jugement, sa façon de voir le monde qui a été cultivée, et donc elle a une grande perspicacité, elle est mais elle n'a pas de travail en particulier puisqu'elle a été mariée et...
Elle est devenue veuve.
Elle est devenue veuve à peu de temps, je pense, avant son...
Avant le roman, avant le début du roman.
Avant le début du roman, oui.
Et elle travaille pour les Américains, enfin...
Elle travaille, oui, dans une base américaine où elle fait le ménage, où elle est soumise toute la, enfin, où elle est soumise souvent à des remarques très déplacées et où elle a dû répondre. D'ailleurs, elle se laisse pas faire du tout.
Et les soldats américains ne sont pas mieux que les villageois de base.
Pas plus malins, non.
Et pas moins émoustillés par la seule présence d'un corps féminin.
Oui. Et donc, elle montre bien que les femmes sont presque maudites, on dirait, dans certaines parties du monde. Et je voulais dire, le début, lorsqu'elle est née, donc un morceau du roman où elle raconte quand elle est venue au monde, elle n'avait pas déjà...
des circonstances très favorables.
Voilà. Alors, déjà après l'accouchement, on aurait pu prédire les quelques emmerdes qui allaient parsemer mon existence. Au lieu d'être accueillie sous les acclamations du voisinage qui n'en finissait pas d'espérer dans la pièce d'à côté, ce fut par un laconique « Ainsi soit la volonté d'Allah » que mon père avait dispersé la foule et mis fin aux festivités. La coucheuse sur le seuil, le visage endeuillé, m'en voulait aussi de ne pas être un fils. Je lui faisais ainsi rater une belle occasion d'être célébrée. Vieille d'une heure et déjà accusée par mon sexe. Et en fait, c'est tout au long du roman qu'on va voir que le sexe féminin, en fait, eh ben, il est un peu maudit dans ces parties du monde et un peu partout d'ailleurs dans le monde.
Et ça n'empêche pas Bilkis de braver quand même sa condition féminine et qui est aggravée par le fait qu'en plus elle n'a pas eu d'enfant. Et dans un pays musulman, être veuve et ne pas avoir d'enfant, c'est vraiment accumuler les soucis. Alors, il y a une autre femme aussi qui est intéressante parce qu'elle est en contrepoint un petit peu de Bilkis. C'est la seconde épouse du juge, parce que la première épouse du juge, celle qui avait été l'institutrice de Bilkis, se suicide après une longue dépression. Et la deuxième épouse du juge, et qu'elle est aussi intéressante.
En fait, elle revendique sa place de femme derrière les fourneaux. Et alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce rôle de femme soit complètement rejeté, c'est là ce que tu disais, Jeannette, que le roman n'est pas ni blanc ni noir. En fait, cette femme aussi, elle a sa place, puisque c'est une place qui lui convient.
Oui, elle se satisfait, elle est heureuse. Elle est illettrée, quand même, on le précise. Mais elle a du mal à lire les recettes de cuisine que son mari lui amène et qu'il voudrait qu'elle lui fasse. Mais elle est une experte épice et vraiment une très très bonne cuisinière, très bonne maîtresse de maison et très belle aussi, paraît-il, de surcroît. Mais il n'y a pas que les personnages féminins qui sont intéressants. Le personnage du juge est vraiment très très intéressant aussi.
Oui, donc le juge, c'est lui qui mène le procès. Et il s'appelle Hassan, je crois, ou Hassan, je ne sais pas comment on dit. Il est issu d'une famille pauvre et il a été arraché à sa famille et il a fréquenté, quand il était petit, une école coranique dont les méthodes sclérosées et violentes l'ont fortement rebuté. Et à l'adolescence, pour justement ne plus être dans le milieu de la religion, il devient charpentier. Et alors, il connaît une vie heureuse et insouciante. Mais, sous le règne des mollahs, il est dénoncé par un collègue à la police des vices et de la vertu, parce qu'il avoue ne pas respecter scrupuleusement toutes les prières quotidiennes.
Et d'avoir quelquefois bu de l'eau sucrée pendant le ramadan.
Alors il va se ranger, par peur et pour ne plus être inquiété. Dans un pays où l'intégrisme gagne, il devient d'abord prédicateur, puis directeur d'école coranique et enfin juge des questions islamiques.
Et là je trouve que justement touche du doigt la malformation, si j'ose dire, théologique de ce garçon. Il a d'abord appris par cœur dans les écoles coraniques sans comprendre, et puis pas une vraie motivation, je veux dire, religieuse. C'est mieux que charpentier, quoi.
Oui, c'est mieux que charpentier, surtout dans un pays où les questions religieuses risquent d'être, de conduire à l'emprisonnement ou à la mort. Je crois qu'il y a une part d'opportunisme chez lui. Enfin, il a peur, c'est par un peu, il le dit, par peur et par lâcheté, par opportunisme aussi, que quand l'intégrisme gagne, il va essayer de faire sa place dans ce milieu-là.
Et peut-être que, à sa décharge, il a une motivation plus noble. Il est amoureux, depuis toujours, d'une jeune femme aux yeux sucrés. J'ai trouvé cette expression extraordinaire. Et dont il voit les pieds. Ça me faisait penser à je crois que c'est Vigny qui parle de Dalila en disant « Ses pieds voluptueux sont repliés sous elle ». Donc il n'en voit que le pied et donc il est tombé amoureux d'elle. Et du fait qu'il va être juge islamique,
son statut social
va lui permettre de l'épouser sans lui demander son avis.
Oui. Et donc Bilkis, par l'attirance qu'il éprouve pour elle, parce qu'il est amoureux de Bilkis, et par leur controverse aussi. Ça fait penser d'ailleurs à Scheherazade, hein, qui va, par le pouvoir de la langue, différer sa mort, puisqu'elle charme celui qui l'écoute. Et donc, Bilkis va ébranler les certitudes dans lesquelles il s'est confortablement installé et lui faire percevoir l'injustice et la stupidité des dogmes qu'il défend. Et elle lui fait perdre ses repères. Et à la fin, il avoue, t'avoir aimé m'a éloigné des dogmes, mais m'a rapproché de ma foi. Voilà. Donc c'est le cheminement, c'est une sorte d'éducation qu'il subit aussi par l'intermédiaire de Bilkis. Il revient, il en arrive à une foi plus épurée, débarrassée des dogmes.
Pardon, j'allais dire, et ça, c'est grâce à sa première femme, qu'en fait, il a épousée parce que lui, il trouvait ses pieds si beaux, mais elle l'aimait pas du tout. Elle était enseignante et érudite, et une des premières actions qu'il a menées, c'est de faire brûler la bibliothèque de son école. Elle lui en a voulu à mort, et puis elle est morte à cause de ça. Et donc, du coup, je pense que, il n'est pas resté indifférent à cette chose-là et qu'il avait l'oreille un peu à l'écoute de cette Bilkis qui lui renvoyait un peu la même chose que sa femme. Et peut-être qu'il s'est dit, il faudrait que j'essaie de comprendre quand même parce que je ne peux pas passer. Il n'était pas si idiot que ça, cet homme.
Il tombe amoureux de femmes indociles.
Oui. Enfin, sauf la seconde.
Oui.
Mais j'ai trouvé très émouvant la mort justement de Nafissa, sa première épouse, qui avait fait une première tentative de suicide classique, si j'ose dire, sans doute en se taillant les veines avec un couteau, mais qui, comme on lui avait supprimé tout ce qui pouvait être tranchant dans la maison, n'en pouvant plus, va se donner la mort en se rongeant les veines. Et son mari, quand il la voit dans cet état, en sang, enfin, ne va pas cette fois la sauver par amour. Mmh. Et il va elle va mourir dans ses bras et un peu apaisée, sans doute.
Elle le remercie d'ailleurs de ne pas la contraindre à vivre, je crois, ou de la laisser partir.
De la laisser partir, oui. Et alors, pour en finir avec cette galerie des portraits, on disait que le texte n'était pas du tout manichéen. L'Occident aussi en prend un peu pour son grade par Léandra interposée, la journaliste américaine. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous a envie de parler de Léandra.
Léandra, elle est obligée de s'imposer dans son maison de production pour avoir son poste, pour venir donc interviewer Bilkis. Mais bon, de la part de ses supérieurs qui sont des hommes, elle subit aussi des remarques déplaisantes et sexistes. Et donc, c'est un peu comme si finalement c'était ce problème, mais c'est ce qui est vrai en plus. Le problème du sexisme est un problème international. Moi, j'ai trouvé que elle avait pris l'exemple de la lapidation dans son histoire, qui est quelque chose d'inconcevable. D'ailleurs, on a peut-être pas dit un peu ce que c'était la lapidation. Mais pour montrer à quel point l'avilissement des femmes, il est insupportable d'un bout à l'autre de la planète. Parce que de toute façon, ce n'est même pas... Enfin, moi, j'ai bien compris que ce n'était pas du tout l'islam qui a servissé les femmes, mais que c'était l'interprétation qu'en faisaient les hommes pour...
voilà. À leur profit. Je tombe sur le passage, là, justement, où on parle de la lapidation. La lapidation est un spectacle. Il faut qu'elle dure, que chacun puisse y évacuer sa haine. La foule commencera donc par jeter de petits cailloux polis pour m'égratigner, puis passera à de plus gros pour me blesser, et enfin à d'énormes pierres anguleuses pour m'achever. Je vous demande donc de commencer par la fin et de me tuer plus vite. C'est un peu ce qu'elle va demander au... ce qu'elle va demander à son juge, voilà. Donc cette lapidation, enfin, en lisant ce livre, je pensais beaucoup à un film qui magnifique que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, et où justement on voit la lapidation en œuvre dans un pays. Là, il s'agit du Mali, enfin, et où les talibans ont pris le pouvoir et qui lapide. Hein, comment?
Boko Haram.
Je ne sais plus si c'est Boko Haram ou si c'est Al-Qaïda, Al-Qaïda Maghreb. Enfin, le résultat, en tout cas, est le même, c'est-à-dire plus de musique, plus de tabac, plus de vie, en quelque sorte.
Hein, mais vraiment. Officiellement, parce qu'en fait, après, on voit bien que le muezzin, il est sous. Alors, normalement, il n'est pas censé être sous. Il n'est pas censé avoir d'alcool chez lui.
Les hommes
s'autorisent.
Peuvent s'arranger et avec la loi, à condition que ça ne se sache pas trop.
Ce qui est intéressant là aussi, c'est les autres chez qui va Léandra. Il y a finalement ce qui est interdit dans la vie publique et ce qu'on peut s'autoriser, au moins pour les habitants les plus ouverts, dans le cercle privé. Et c'est un peu ce qui se passe en Iran aussi actuellement, je crois.
Oui. Et alors justement, Léandra, lorsqu'elle arrive pour assister au procès de Bilkis, va être hébergée par une famille du village. Et elle est très surprise de la façon dont la vie se déroule dans cette famille de village, parce que entre le père de famille et sa femme et ses filles, il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de tolérance.
Oui.
Alors qu'elle s'attendait, elle ne s'attendait pas à ça. Et alors je pense que Safia Azzedine, là, a dû peut-être faire un peu un portrait de son père, dont qu'à la fin du roman, elle remercie. Elle dit « Merci à mon père, Boualem Azzedine, de m'avoir saoulé toute ma jeunesse avec des conversations interminables sur les choses de la vie, d'avoir ensuite éveillé en moi une curiosité jusque-là inassouvie, de m'avoir carchérisé de culture avec ses moyens à lui, de m'avoir écrit des poèmes avec des fautes d'orthographe quand j'étais triste, de m'avoir sagement transmis sa religion plutôt que de me l'imposer bêtement, et d'avoir eu une foi incommensurable en sa femme, en ses filles et en ses fils. » C'est donc que tout peut exister.
Oui. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est les traits de caractère communs qu'ont Léandra et Bilkis. Elles ont le même franc-parler, la même ambition aussi personnelle, fondée sur le sentiment de leur valeur. Elles ont le même humour, elles ont beaucoup d'humour l'une et l'autre, et beaucoup de détermination et d'intransigeance. Par exemple, la façon dont Léandra rejette son fiancé parce qu'il lui a mal parlé.
Elle ne veut plus le voir. Parce qu'il lui interdit en quelque sorte d'aller interviewer.
Et donc, en dépit de ces traits communs de caractère, elles n'arrivent pas à se comprendre parce qu'elles sont issues de deux pays dont la culture est totalement différente, voire opposée. Par exemple, Bilkis juge l'intérêt de Léandra sur son cas comme une charité intrusive. Elle se moque de cette citation pentade romantique, friande de guimauve, qui, en voulant la sauver, se gargarise de sa propre humanité. Et elle juge aussi très sévèrement les États-Unis qui occupent son pays. Elle lui dit « Si j'avais le pouvoir, Léandra, je vous tuerais ». Elle dit du pays, donc de l'ingérence américaine dans le pays, « Vous torpillez notre pays et ensuite vous venez panser nos plaies ». Donc elle s'affronte très sévèrement, très violemment. Léandra lui rétorque « Vous êtes des marginaux bloqués au XIIIe siècle pour les plus éclairés ». Et pourtant, lors de sa dernière visite à Bilkis, Bilkis va demander quelque chose à Léandra, qui illustre l'avertissement de Zulaïka. Nos affaires internes, même barbares, on ne s'y aventure jamais à la légère. Elle va lui demander quelque chose, effectivement, de très difficile. Et Léandra, malgré la répugnance et l'horreur que cela lui inspire, fera ce que lui demandera Bilkis.
Mais on ne vous dit pas ce que c'est, parce que vous le saurez
en lisant
le livre.
Et c'est donc quelque chose est quand même passé entre elles.
Oui, manifestement. Elles ont changé.
Elles sont arrivées à communiquer.
Elles sont arrivées à communiquer.
Oui.
Donc ce livre, nous l'avons beaucoup aimé. J'espère qu'on vous aura donné envie de le lire. Donc je vous rappelle que c'était Bilkis de Safia Azzedine qui a paru en livre de poche, enfin aux éditions J'ai lu. Voilà. Alors, il me reste à vous donner quelques rendez-vous. Le Confluence organise le 14 juin un cabaret Prévert. Et dans ce cabaret Prévert, vous trouverez Maurice Petit, qui lira, Christelle Béliveau, qui est une chanteuse lyrique, et un accordéoniste, dont vraiment je vous demande d'excuser la façon dont je vais prononcer le nom, parce que si je vous les plais, vous n'en reviendriez pas, Nimijlokovjan. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, enfin, donc ce sera une soirée très, très sympathique, 19h, et qui va être en deux parties. Interrompu à 19h45 par un entracte gourmand. Le traiteur de la pyramide des saveurs nous offre la partie qui se mange et le domaine de la Tuquenne nous offre le vin. La librairie de Loche sera présente et la soirée se terminera vers 20h30. Autre rendez-vous, le festival de sculpture. De la sculpture qui aura lieu du 19 juin au 2 juillet. Et il y aura une exposition, le festival de la culture est un peu partout dans Montauban, hein, comme d'habitude. Il y aura une exposition à la Petite Comédie et qui sera ouverte de 2h à 18h du lundi au vendredi, de 15h à 18h le samedi et le dimanche. Et cette expo a comme thème « Mythe venu d'ailleurs ». Alors, le vernissage de l'expo à la Petite Comédie aura lieu le 22 juin à 19h, en présence des auteurs, et avec la participation musicale du duo Pampa, qui fait de la musique d'Amérique latine, comme son nom vous le laisse supposer. Et le 29 juin à 19h, il y aura une scène ouverte où chacun pourra lire un texte sur le thème « Les mythes venus d'ailleurs ». Alors, tous ceux qui ont envie de venir lire. Voilà, et bien, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter Khaled, qui a écrit une chanson qui s'appelle Aïcha. On a un peu hésité à vous la proposer, parce que le personnage de Khaled lui-même ne nous inspire pas beaucoup, mais sa chanson est intéressante, et alors d'autant plus que Bilkis, c'était le nom de la reine de Saba, aimée par Salomon, et que Aïcha, Khaled l'appelle sa reine de Saba.
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, écoute-moi, Aïcha.
Voilà, et bien il nous reste à vous dire au revoir et à vous inviter à venir à notre prochain cercle de lecture à Confluence, à la Petite Comédie, juste à côté du théâtre, rue de la Comédie à côté du théâtre. Et le prochain livre que nous avons choisi est d'un invité à Lettres d'automne, Antoine Chauplin, et il s'appelle « Quelques jours dans la vie de Thomas Cusard ». C'est publié à La Fosse aux Ours, et ça promet d'être intéressant, puisqu'il s'agit d'un villageois que les hasards de la vie mettent en présence de Vaclav Havel, qui est venu dans son village donner une pièce de théâtre. Voilà, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Elle a regardé tes traits.